Zola est entouré d'une légende, d'une ennemie, qui s'atteste par ce livre de Grand Carteret, où on voit son visage associé à celui, si je puis dire, d'un porte, pratiquement. Ça avait commencé le bonheur. Dès 1868, l'écrivain Louis Hulda disait de Zola qu'il était l'inventeur de la littérature putride, et un critique célèbre, Pont Martin, qui travaillait à la Gazette de France, c'était le grand journal bien pensant de l'époque, disait de lui, c'est un travailleur de nuit à grosse bosse. Vous avez compris, travailleur de nuit à grosse bosse, c'est ici un négocié, c'est bien même un vendeur. On sait moins aujourd'hui qu'Anatole France, qui dira des choses grandes et nobles sur Zola après la fin de suite, Anatole France avait commencé par parler de lui avec une extrême violence. En 1887, lorsque Zola avait publié La Terre, France a fait dans le temps une déclaration d'une violence inouïe. Que voici. Jamais homme, disait Anatole France, jamais homme n'a fait un pareil effort pour habiller l'humanité, ainsi qu'à toutes les images de la beauté et de l'amour, nier tout ce qui est bien, tout ce qui est bon. Il ne s'en tenait même pas là, il avait ajouté des phrases, sauf pour ma part assez stupéfiantes, mais Jésus-là est un de ces êtres dont on pourrait dire qu'il serait meilleur qu'il ne fût pas né. Eh bien, c'est ce personnage assez horrible, en tout cas malavenant, que je voudrais tenter avec vous d'approcher. J'ai été amené à cela, pas par la littérature, mais par la théorie. L'occupé de la théorie, c'est bien comprendre cette espèce d'énigme qui aujourd'hui encore reste si obscure, et je me suis aperçu du rôle extraordinaire qu'avait eu Zola en 98. J'ai voulu comprendre ce qu'il avait fait. Il me semblait que ça révélait là un homme d'un format pas ordinaire. Et c'est à cause de la théorie, à cause de Jacques, à cause de du courage que Zola a développé dans cette histoire, que j'ai essayé d'étudier. Je vais vous dire une histoire, cette époque. L'écrivain Jacques Grinville, disait de lui, ce demi-italien, quart de grec, trois ou quatre fois métis, n'est pas un bel échantillon de l'humanité. Si Grinville voulait dire que le père de Zola n'était pas français, c'est exact. L'ingénieur François Zola, qui creusa le canal d'Aix, qui est un ami de Sierre, était né effectivement à Venise en 1795. Et il avait épousé une jeune fille grecque, qui était née à Corse. Mais du côté des entrailles de l'histoire, Zola appartient à la petite plèbe française. Sa grand-mère était couturière à Gourdan, dans la Beauce, quand il y avait cousin un vitrier qui s'appelait Aubert. On peut dire que par les entrailles de l'histoire, il appartient à la même race humble et forte que celle de pays. C'est un garçon qui n'avait pas eu de chance au début de sa vie. Une dure enfance, une adolescence du pays. En 47, il était né en 40, en 47, il n'a même pas 7 ans encore, il est né en avril 40, c'était en mars 47, son père meurt. Ce père, nous le connaissons peu, cependant, nous avons un tableau. Un tableau qui a été fait à Aix, qui était donc, je vous dis, ingénieur, il faisait le canal. Tableau assez somptueux, on voit que ces gens étaient aisés puisqu'ils posaient devant le tas. Il y a donc le père, la mère et le fils. Regardons un instant ces visages. Il y a le père, Émile Zola, qui a le poing sur la cuisse, qui est très redressé, qui a l'air assez fier de lui, un regard gentil et direct. À côté, on voit la maman, qui est jeune à ce moment-là, 26-27 ans, elle paraît un peu plus vieille que ça sur la toile. Elle a des bandeaux à la George Sand. Elle a un beau camée sur sa robe, qui paraît une robe de soie noire. Elle a les yeux à fleur de tête. Ce qui frappe, c'est le visage du petit garçon à côté, un drôle de visage, sans bonheur, enfin, comme s'il s'attendait confusément à ce que la vie ne soit pas vieille pour lui. Cette image, elle doit être de 46, c'est un enfant avec dans nous 6 ans. Mais regardez cet œil. Il y a un œil, c'est l'œil gauche. Il plante un peu. Il y a cette bouche, avec une moue. Il a beau être, comme on dit sur 131, il est en plus d'assure avec son manteau de velours et sa fourrure. Il y a là, je ne sais quelle curieuse tristesse, cet enfant. Et bien, effectivement, son père va donc mourir. Il est peut-être trop petit, là, dans la nuit, pour mesurer ce que c'est qu'un deuil. Mais en tout cas, il y a une chose qui se voit tout de suite, c'est que l'aisance dans laquelle on était, dans la famille, va se transformer en difficulté, en gêne, et bientôt en détresse. On peut suivre à la trace leur déménagement perpétuel, presque tous les ans, ils changent d'appartement. Et on descend, parce qu'on va aboutir quand il a 16 ans, je crois, on va aboutir à deux pièces absolument obscures qui donnent sur un boyau noir, une espèce de déversoir du monde, qui est le long du rempart de la ville. On était quatre là-dedans, parce que l'ingénieur de là, très gentil pour sa femme, a essayé de venir pour vivre avec eux, il était riche, il était aisé, il avait fait venir le grand-père, la grand-mère. Alors il y avait donc le petit et Nicolas, sa maman, le grand-père, la grand-mère qui vivait dans cette maison. Et à 17 ans, en 57, Jonas va mourir cette grand-mère. C'est un peu dur pour lui. Il l'aimait beaucoup, il ne l'avait jamais quitté. Et c'est soi, il a 17 ans, il se mesurait ce que c'est que la mort. Il écrira plus tard au souvenir de ce malheur, on était quatre et un trou se creusait. On restait trois à grelotter de misère. C'était donc à mourir. C'était ce qui va mourir. Sa mère se perçoit qu'il pourra vraiment faire de bonnes études, c'est ce qu'il va travailler à part. Une idée comme ça, la fascination de la capitale. Alors en 58, en mars 58, elle décide de l'envoyer faire ses études au lycée de Louis-Grand à Paris. C'est pas raisonnable en cours d'année, puisque vous allez en France, les études commencent au mois d'octobre, et c'est au mois de mars 56 pour le mettre brusquement en classe de seconde au lycée de Louis-Grand à Paris. Il est très malheureux à Paris. Ça ne va pas. D'abord, il ne connaît personne, c'est un peu effrayé, c'est un garçon timide et gauche, pensif et maladif, dira lui Cézanne, qui était un de ses camarades de Provence. Les garçons de lycée Louis-Grand à Paris se moque de lui d'abord à cause de sa gaucherie, et puis parce qu'il a beaucoup vécu dans cette province, il n'est pas né en province, il est né à Paris, mais il a été tout de suite à Marseille, à Aix-Marseille, il y a pris l'accent. Alors cet accent méridional, ça fait rire, les garçons de Paris, en plus il a une difficulté de parler, donc il ne lui arrivera jamais, comme on dit, il avait un cheveu sur la langue. Alors il dit mon petit chien, il dit mes cheveux, enfin pour dire son chien et ses cheveux, et les garçons se disent de lui, ça lui est pénible. Il attrape une typhoïde terrible dans l'année 58-59 dans l'hiver. À ce moment-là, on ne savait pas soigner la typhoïde comme aujourd'hui. Il a plus de deux semaines de délire. Sa mère se demande s'il ne va pas mourir et s'en tire, mais il s'en tire mal. Il est vraiment faginé. Et puis voilà qu'au printemps 59, son grand-père meurt. Deuxième, même quoi, troisième rencontre avec la mort. Et il va se présenter dans ces mauvaises conditions physiques et morales au bachot. Eh bien, il a fait ce qu'il avait pu. Il travaillait de son mieux. C'était pas un œil. C'était pour un garçon de 8 ans, appliqué surtout. Il passe les cris et il échoue alors. Alors il se persuade qu'après tout, s'il avait pu rester à Aix, peut-être que le bachot était plus facile à Aix qu'à Paris. Alors il demande à sa mère de lui donner l'argent nécessaire pour aller tenter l'oral du baccalauréat, enfin lui, l'oral, je veux dire, à Aix. C'est présent à son oral d'Aix, il échoue. Par conséquent, il a complètement raté, puisque vous savez, quand on échoue une seconde fois à l'oral, c'est fini, il faut tout recommencer. Or, ce pauvre garçon était boursier. Bien sûr que sa mère n'aurait pas pu payer elle-même les études à Paris, elle a obtenu une bourse pour lui. Et là, on ne renouvelle pas la bourse à quelqu'un qui s'est fait comme deux fois au baccalauréat. Alors, c'est fini. Les études de Zola vont s'arrêter là. Ces choses sont pas d'ordinaire, c'est intéressant. Ce Zola, un grand écrivain, qui savait ce qu'était Clestine, qui s'appelait lui-même un poète, ne sera jamais un bachelier. Un petit camarade qui s'appelle Bail, ses deux meilleurs amis, c'était Bail et Cézanne. Un petit camarade Bail, il écrit, je me rappelle, c'était au mois de janvier 60, il lit. Tu vois, je veux avoir 20 ans, il aura 20 ans le 2 avril. Je veux avoir 20 ans, et je suis encore à la charge de ma mère, qui me souffle à peine de se dire à elle-même. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, ça se débrouiller pour trouver, comme il pourra, une situation n'importe quoi qui me fasse vivre. On cherche, on tâtonne, c'est une table de marche, présent dans les tables de bureau, on ne veut pas de lui, pas de diplôme, il n'y a rien. Enfin, il va trouver le 1er avril, donc la veille de ses 20 ans, c'est le 2 avril. Le 1er avril 60, il va trouver une place, de scribe, enfin de grattachier, dans un truc qu'on appelait les docks de la douane. C'était situé près du château d'eau, c'est-à-dire près de la gare de l'Est, et le tout petit et misérable appartement où il vivait avec sa mère était dans le 5e, rue Saint-Jacques. Il est payé une somme qui correspond au pouvoir d'achat aujourd'hui de 180 francs. Voilà ce qu'il a par mois. Alors naturellement, il ne peut pas vivre. Il va et il revient de son bureau, et c'est loin, la rue Saint-Jacques jusqu'au château d'eau. Il va et il revient à pied, pour pas qu'il nous amuse. Sa mère lui donne le matin un casse-croûte, il mangera sur place, travaille un petit peu, mais enfin impossible de continuer parce que véritablement, il n'est pas nourri. Alors, au bout de deux mois, ce travail-là, il va abandonner, il va démissionner. Démissionner, c'est bien joli, c'est immense tout de même. Il va faire un coup de tête. Ce soir-là de 20 ans, nous le voyons. Pour la première fois, nous avons une photographie de lui. C'est intéressant de le voir. Il est très blême. Il a un petit collier de barbe. Il se tient devant l'objectif, redressé, pas ascendant, pas insolent, non, bien droit, simplement. Il a l'air d'un étudiant de province, assez pauvre, mais résolu. Et bien, c'est le garçon qui décide de ne pas continuer aux ordres, il est rendu compte, après, il n'y a vraiment rien de vivre avec ça. Et là, il va faire un coup de tête. Lui, qui avait toujours agité avec sa mère, qui ne l'avait jamais quitté, décide de la quitter. Et pourquoi? Oh, il lui donne comme raison qu'il écrit. Et en effet, il écrit des vers depuis qu'il a 16 ans. Il écrit, il a besoin de solitude, d'être absolument tranquille. Quand on dit, c'est vrai, il a besoin de solitude. Mais en fait, ce qu'il veut, c'est ne plus rester à la charge de sa mère, parce qu'il en a assez de l'avoir perpétuellement se priver pour que l'immense ou affaire pendant deux ans une expérience de la misère dont je crois qu'aucun autre écrivain français n'a fait. C'est-à-dire. Je sais bien que Chateaubriand, par exemple, lorsqu'il a débarqué en Angleterre comme immigré en 92, a connu cette extrême misère pendant quelques semaines. Pour cela, ça va durer un an et demi, deux ans. Le garçon va vivre parmi ses trois commandes, hein, collant des enveloppes, faisant des bandes, essayant de placer littéralement les articles qu'on lui paye à peine. Il va vivre d'une manière extrêmement pénible, avec des semaines dans l'hiver où il ne se lève pas parce qu'il a trop froid, alors au moins dans son lit il a un peu chaud, il se nourrit avec du pain trempé dans l'huile, enfin c'est terrible. Et bien c'est pendant cette année 60-61, donc l'année 21e année, où va se passer dans sa vie, surtout dans sa vie intérieure, un événement que je voudrais bien vous faire comprendre parce que les conséquences en ont été énormes, démesurées, qui frappe quand on regarde les quelques lettres d'adolescence que nous avons dites à Suzanne Wabal. Qui frappe chez ce garçon de 16 ans, 18 ans, 20 ans, une extraordinaire grandeur, en fait, si vous voulez, une pureté farouche. Un garçon qui ne faisait pas du tout la note, un garçon qui s'écartait des filles, qui les respectait, qui avait décidé, et il l'a fait, de rester vierge pour celle qui les filles. Quand on parlait avec Baye et les camarades, quand on parlait en provenance des filles de Paris, ils en parlaient à cette pleine, de la dame au familia, de Marion Delorme, l'histoire de prostituée qu'on relève par l'amour. Il y a même là une phrase, de là que je voudrais vous citer tellement, elle est enfantine et gentille. Nous demandions à Dieu de nous envoyer une âme flétrie pour la lui rendre jeune et blanche de notre amour. Voilà ce qu'il écrit à ce garçon, à l'église. Et bien l'histoire, c'est pas cette histoire, comme c'est qu'il va jouer au naturel, cette aventure de Tolstoï, cette aventure de résurrection. Comment ça se passe? Dans l'hôtel sordide, misérable, il était garni, il était rue Soufflot, à Paris. Il avait lâché un croque-mort, il avait fini en carte. Justement, il y a une grosse dans le salon aujourd'hui, qui s'appelait Gert, qui va l'appeler Laurent, dans le bouquin qui se consacrera à son aventure et qui suivra la confession de Claude. Cette Gert, une nuit, elle a eu, je sais pas quoi, une espèce de salle de conviction, qui s'est mise à se tordre sur son lieu, qui est tout l'hôtel, naturellement, est sorti, il peut se dormir avec le bruit qu'il faisait. Dans la vie aussi, on lui a mis de l'eau sur la figure, du vinaigre, on a tapoté, et puis on est arrivé à calmer. Je là, par gentillesse, peut-être aussi par un autre sentiment obscur, se propose pour la veiller, cette fille. Alors elle est là, sur son lit, qui dort maintenant, et je là, il s'assied sur une chaise, attendant qu'elle se réveille. Ça va, dans la semaine matin, elle voit ce jeune garçon, que je vous ai laissé tout à l'heure, près de son lit, elle le récompense, bien sûr, comme elle pouvait le récompenser. Eh bien, voilà le sentiment que cette prostituée qui s'est donnée à lui, il ne faut absolument pas qu'il la traite comme les hommes font les prostituées, c'est-à-dire la payer et s'en aller. Pas possible. Il pense que c'est une fille, c'est un être humain, c'est une âme comme lui, et que si elle lui expliquait bien les choses, elle pourrait peut-être comprendre et sortir de ce cancer dans lequel elle est en train de vivre. Alors, il explique tout ça à cette fille, qui ne comprend rien, parce qu'elle est absolument abasourdie. Il lui dit, tu ne l'appliqueras pas, il veut juste que elle essaye de lui expliquer la moyen même où elle est. De refaire une vie droite, c'est d'avoir un foyer, d'avoir des enfants, il se propose, vous entendez, c'est exactement ce qu'il a fait. Lui qui gagne rien, enfin, c'est déjà un grand temps, offre à cette fille de vivre avec elle pour de bon, c'est un défi. D'abord, elle a commencé par excuser de fête, puis peu à peu, elle a trouvé à ce moment, enfin, c'est de sa chance, enfin, elle est tombée sur la tête de cinglé, qui lui sort dans le cou, qui lui raconte des histoires d'autre monde. Enfin, s'il était raisonnable, il ferait des sous pour essayer d'en mettre au bal, mais lui, il est là, qui lui explique carrément la commande dans ses bras, tout ce qu'on pourrait faire. De bien. Et naturellement, ce qui se passera, c'est très facile à prévoir, enfin, dès qu'elle est bien et qu'elle s'est amusée avec lui un moment, elle le laisse tomber pour trouver quelqu'un de plus agréable et qui l'a sorti. Le résultat de cette aventure va être assez sérieux pour lui. D'abord, vous voyez qu'il a fait, comme on dit, comme une éducation sentimentale, d'un seul coup, il a toute vitesse. Mais il va dire, toute la falsité humaine s'est dressée devant moi. Et comme c'est un garçon clairvoyant, il se juge parfaitement. Il faut très bien que s'il s'est intéressé, comme il dit, à cette âme, elle lui a paru moins intéressante qu'elle lui a dit tout ce corps, qui le nous a. Alors il va écrire, en un texte bientôt, ceci. Tout le départ enchanté vers le séduit des nobles tendresses, sous le coup de fouet de l'instinct génétique. D'autre part, une espèce de colère, de fureur, lui est venu contre les menteurs en littérature. Et ça, c'est important parce que justement, il voudra celui qui ne ment pas. Qu'est-ce que c'est les menteurs pour lui? Ben, c'est les gens à la mystère ou à la murgère qui parlent des prostituées en les appelant, c'est comme on disait à ce moment-là, les grisettes. C'est ceux qui habitent toujours dans des mansards, dans la littérature, entre l'idée de gentil, non, car il y a sur le bord de la fenêtre des gens, il y a une idée qui est fleur, enfin, il, tout est radical. Et il écrit maintenant, je sais parfaitement ce que c'est une vraie mansarde, et combien c'est hideux. Et parlant de ces écrivains, qui parlent de rayons les démons de l'adolescence, et qui nous parlent de belles amours, et Dieu aussi, ils essaient de nous faire prendre des ordures pour des cœurs. On a toujours fait de lui à ce moment-là, où on le voit, comment dire, écartelé, divisé. Je voudrais vous apporter la croix, si ça se voit, une d'abord. J'ai deux existences parallèles, ici. Une ici-bas, dans ma misère. L'autre dans la profonde pureté du ciel bleu. Deuxième citation. La réalité est affreuse. Elle nie toutes ces choses, grandes et pures, dont l'amour ne peut pas monter en moi. Et troisième citation. J'ai en moi à la fois un âpre besoin du réel et l'impossibilité de renoncer et de dire adieu aux espérances du rêve. Alors la conséquence de ça, pour lui qui est un écrivain, c'est qu'il va justement se poser la question de savoir ce qu'il doit écrire. Une idée, une espèce de fantasme, lui est venue. Pénétrer, dit-il à propos de Verne, pénétrer les causes de sa chute. Et tâcher de trouver un remède à chaque lettre son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est fou, c'est trop lui, en fait, c'est prostitué. Qui est devenu cet être avili. Elle a pas pu traiter comme ça. Elle a été, forcément, vous savez, un petit enfant futur avec le ciel dans les yeux. Et bien, quelle est donc la route qu'elle a parcourue? Est-ce que c'est sa faute qu'elle est comme ça? De quel milieu sort-elle? Ses parents, elle était une star sur eux, qu'ils lui ont donné. Quels exemples a-t-elle vu? Quelle atmosphère a-t-elle respiré? T'entends-tu, il y a, comme on dit toujours, la faute originelle qui explique beaucoup de choses. Et il y croit à ce moment-là. Il y a à côté de cette faute des responsabilités sociales, des mots qui ne sont pas forcément incurables. Et tu quand même, le capacité de cette guerre, tu penses à nous tous, enfin à la créature humaine qui, rien qu'en vivant, s'agit. Nous aussi, n'importe qui, on a été pur au début, et on est devenu cet être plein de mauvaiseté et de nuit. Alors il se perçoit par une immense inventaire à faire. Le chemin parcouru, par nous tous, pour comprendre où nous en sommes arrivés. Comment ça se réussit, c'est difficile. Et il échoue positivement. Je n'ose pas encore, il est toutes ces misères. Et il a même le sentiment qu'il y aura une autre voie possible, quelque chose de beaucoup plus conforme à son tempérament. Il dit, la phrase que je crois savoir par cœur, il dit ceci, ce n'est pas en montrant brutalement son mal à un homme qu'on le guérit, mais c'est en lui montrant le bonheur qu'il aurait goûté s'il avait suivi la bonne route. C'est ça, c'est vraiment son tempérament essentiel. Alors la première chose qu'il a écrit, et on ne le sait pas aujourd'hui, on l'oublie, son premier livre, 1864, il a donc 23 ans quand il l'écrit, 24 ans quand il le publie, c'est les contes animaux qu'il appelle ses belles histoires de sagesse et charité. Ce nom propre, Ninon, vient de sa part de l'aspect humain. Il ne veut pas donner aux gens l'impression qu'il est quelqu'un sans amour. Alors Ninon, pour les lecteurs, on a l'impression que c'est une amoureuse gentille et pure qu'il aurait laissée en Provence. Nous sommes renseignés, il n'y avait personne. Du reste, regardez bien, d'après ça, comment la définit-il, cette Ninon? L'ange de mes solitudes, mon bon ange gardien, ne fait rien d'autre que son âme d'enfant, son âme d'adolescence. Et il dit, Ninon, tu ne sais pas comment va le monde. Les fleurs y sont malades, et bientôt peut-être les cœurs seront morts. Et bien lui, il va empêcher les cœurs de mourir. Alors c'est pourquoi il invente ces histoires qui sont en effet si simples et si gentilles de la première scène. Simplice. Simplice, c'est justement l'histoire d'un cœur simple. La troisième histoire s'appelle Sœur des pauvres. Et Sœur des pauvres, c'est l'histoire d'une petite fille pour laquelle la Sainte Vierge avait fait un miracle. Enfin, incroyablement peu, cela, au sens que nous entendons ça aujourd'hui. D'ailleurs, il se reproche un peu. Il a l'impression que c'est trop facile, en fait, que c'est trop dans son tempérament à lui. Tu chouderais, elle, se dit-il à lui-même. Alors, à l'intérieur même de ces contes d'animaux qui sont en effet peut-être un peu bleus ou un peu roses, il va mettre une histoire, mais pas noire et rouge. Elle s'appelle Le Sang. C'est l'histoire de trois soldats, de trois déserteurs, qui ont déserté parce qu'ils ont vu ce que c'était que la tragédie de la guerre. Et au milieu de cette histoire, il y a une page, pour moi, inoubliable, qui est une vocation du calvaire. L'année suivante, il y a 25 ans, donc, il va écrire La Confession de Faux, encore un bouquin de lui qu'on ne lit pas, et on a terriblement peur. On ne lit pas les contaminants, on ne lit pas La Confession de Faux, et pourtant c'est le livre clé. C'est le livre qu'il va raconter en la proposant à peine, une histoire avec Verte, qu'il appellera Laurent. L'impitoyable survie de cet être, dit-il. cette bouche froide, ce front dur, cette détermination de ne pas me répondre, de ne pas m'écouter, je me suis déchiré à vouloir me faire entendre d'une âme morte. Ce livre lui plaît à lui parce qu'il peut y concilier ce double tempérament que j'ai essayé de définir tout à l'heure. Vous savez, l'âpre besoin du réel et les espérances du réel. Alors l'âpre besoin du réel, ben nous l'avons dans ce texte-là parce qu'il représente vers tel qu'elle était, son milieu prostitué, et les espérances du réel, c'est l'âme de ce Claude qui est lui-même aimé. Tandis qu'il ne mordra pas son public, il n'aura pas de succès. Et l'année suivante, dans la France à détermination, il va écrire son premier livre entièrement noir, qui est Thérèse Raquin, et c'est l'année suivante, 68, ça lui fait donc, oui, ça lui fait 28 ans, il commence à dessiner le cadre général de ce qui sera son grand œuvre, ça c'est Rougon-Macquart, Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire, qui prévoit à ce moment-là 10 volumes, et ça aura, vous le savez, 20 volumes. Il est parti. Il est parti dans la direction du réel le plus brutal. Il veut faire, si je peux dire, du super Balzac. Balzac, lui aussi, avait été un réaliste, mais retenu par des prudences, par un respect des contenances. Et bien, lui, rien. On dira tout, dit-il, et tant pis pour l'odeur. Alors, le garçon va s'acharner. Par ailleurs, extraordinaire. Il s'est marié à 30 ans, en 1870. Il a épousé une fille qui s'appelle Alexandrine Melet. C'était la deuxième femme qu'il avait eue dans sa vie, et il l'a gardée. Celle-là, bien voulu rester, c'était pas une prostituée. Il vit avec elle et sa mère à Paris, mais il est pas du tout parisien. À Paris, c'est justement au Batignolles. Batignolles, à ce moment-là, c'était un quartier presque champêtre. Enfin, ils ont là un petit pavillon avec un jardinier où madame Zola élève des lapins. Et lui, il s'enferme. Il travaille toute la journée. La vie travaillée, ça rapporte très fort. Pensez donc en 75, il y a déjà 13 ans, 12 ans qu'il écrit. Eh bien, on sait ce qu'il a gagné, si tenez ses comptes. Il avait gagné, en 12 ans, avec ses volumes, une somme équivalente à 3500 francs aujourd'hui, en 12 ans. C'est comme ça qu'il devait faire vivre son foyer. C'était donc le journalisme qui l'aidait. Il plaçait des articles de critique picturale, il avait voulu défendre le net, et une critique littéraire. Dans tous les journaux où on voulait bien accepter sa prose. L'événement, le Figaro, le Salut Public à Lyon, et il fallait toute part. C'était ça, positivement, son gagne-pain. Mais c'était pas ça qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'était les romans. Il a même redonné un nouveau groupe, un nouveau recueil de contes, nouveaux contes animaux. Et c'est après ça, ce nouveau conte, qu'on entend dire, gentiment et tristement, je me suis enfermé, pour ne mettre que le travail dans la vie. Et je me suis si bien enfermé, que personne ne l'a dit. Ben, le défi de la première, l'année suivante, en pas de 20 ans, en 76. Ça est là, ça va lancer l'Assommoir. Et c'est l'Assommoir qui va faciliter son nom aux élites de la gloire. Jusqu'à 75, rendez-vous compte, les gens ne connaissaient pas le nom de Zola. On a les tirages. Et ben, il n'avait pas vendu 900 exemplaires du premier livre des Rougon, qui s'appelle la fortune des Rougon. Le ventre de Paris, qui aujourd'hui nous paraît un bouquin illustre de lui, n'était pas arrivé à écouler la deuxième édition. Et la faute de la Demouret, qui est le cinquième livre des Rougon-Macquart, à peine 1700 exemplaires vendus. Avec la Sommoire, au contraire, cette fois, c'est la grosse vente. J'ai fait un livre, dit-il, le premier livre, j'ai fait parler le peuple comme il parle. Et c'est un livre qui a l'odeur du peuple. C'était écrit dans une langue directe et brutale, et le livre en effet, justement, succès. Alors, l'éditeur Charpentier. J'avais misé sur Zola. S'aperçoit qu'il a eu raison, c'est un bon cheval. Et Charpentier va faire pour lui ce qu'on n'avait encore jamais fait, vous aviez fait, c'est une publicité murale. Vous savez, on lançait les romans à ce moment-là comme on les lance aujourd'hui, c'est-à-dire en faisant la publicité dans les journaux, quoi, les placards publicitaires, pour Lamartine, dans Les Girondins, pour Victor Hugo, dans Les Misérables, les éditeurs avaient essayé des publicités par affiche dans Paris. Et bien Charpentier va faire le même coup pour le Nana que Zola va lancer en 80. Les Parisiens vont être assourdis par ce nom de Zola. Ils crient de tous les murs. Il y a des affiches dans les années 12, dans les bateaux, il y a même des affichettes, ça fait toute petite, ça dans les bureaux de salaire. Le résultat, c'est que le jour où Nana est mise en vente, 55 000 exemplaires. Exactement, hein, 55 000 exemplaires sont vendus le jour de la mise en vente. Et quand à ce moment-là, l'auteur touchait 55 000 or par bouquin, vous voyez que cela commençait à gagner sa vie pour de bon. En plus, Charpentier lui avait dit, mais il y a encore moyen de gagner plus, c'est-à-dire de publier vos bouquins, d'abord en question dans les journaux, et ensuite en volume. Et on sait que la Sommoire lui avait rapporté une somme équivalente à 3 millions de francs français d'aujourd'hui en question, et Nana lui rapportera 6 millions en question. Alors, comme qui avance beaucoup, il profite de la vie. Ah, il n'a pas de vie, mais il a un gros défaut, je suis d'accord avec vous. Il est vorace. Je vois dans ses lettres, quand il est en 77, pour la première fois, il donne de l'argent, il avait offert à sa femme et à sa mère un voyage. Il dit d'aller à l'espace, entre Toulon et Marseille. Et c'est assez drôle, même un peu pénible, de voir que Zola, un poète romancier, n'est pas très attentif à ce qu'il voit dans l'espace. La mer, c'est l'adresse, c'est la nourriture. Il dit à Flaubert, à l'espace, il y a une nourriture du bonheur de Dieu. Et il dit même à Eastman, il y a là-bas des certains plats de coquillages dont je bats, écrit-il avec un véritable attentisme. Ben, le résultat, c'est qu'il aura tant titulé en 1886. On se moque beaucoup de lui, mais j'en reste pas dit qu'il a une figure qui est une pleine lune de saint Louis. Alors cet homme qui sait ce que c'est que la volonté, décide de se faire maigrir. Et puis après, d'année en année, à cause de ce régime qui s'impose, de presque à rien manger, de biscotte le matin, parce que s'il en passe pain à midi et pas de repas le soir, 2 tasses de café, 2 tasses de thé, eh bien, le résultat, c'est qu'il passera de 100 kilos à 100, à 90, à 80, à 70, comme on dit, et il va s'établir à 67 kilos, et il a un 69, et c'est un homme plus volumineux, tel qu'il décrira dans sa vie secrète au cours de ces années-là, deux drames qui s'est produit. L'un en 1880, la mort de sa mère. Elle n'était pas vieille, elle avait 60 ans. Il n'avait donc jamais quitté, même, vous savez, quand il a été rétabli, enfin, au cours de sa 20e année, dans cet hôtel, là où il était, dans rien d'autre, il allait la voir quand même, qu'il est juste. Et voilà, brusquement, en 5 ou 6 jours, elle est emportée par une pneumonie. C'est un coup terrible pour lui. Pour en juger, lisez le livre qui s'appelle La joie de vivre. C'est un livre qui, dans son programme, il avait un programme très minutieux, très strict, arrivait pour l'année 1885. Dans sa pensée, c'était un livre autobiographique. Il voulait transposer naturellement, raconter sa vie. Et maintenant, il a le sentiment qu'il n'aura pas le courage de raconter ce que ça a été sa mort sa mère. Alors il a chamboulé son affaire, il avait décidé qu'il écrirait un livre autobiographique du tout ça. Il met à la place le plus faible, à mon avis, de Robert Macart, qui est le bonheur des dames. Et en 82 seulement, il va essayer, il va tenter d'écrire ce livre en sortant, sachant bien qu'il sera malheureux. Il l'écrit. Et ça veut dire, entre quel titre il va hésiter. Pour ce livre, auquel il s'était forcé de donner une conclusion qui ne soit pas soumise, et s'était mis dans une petite indication, ne pas conclure par le pessimisme, conclure par la joie de l'enfantement perpétuel. Et bien, il va hésiter entre les titres que voici, la misère du monde, la sombre mort, la vallée de larmes, terminant par ce mot-là, je crois, de vivre, c'est définitif, qui a l'air d'une dérision au-dessus d'un livre à ce point sombre. Le deuxième drame, il s'agit du secret, c'est celui du pape en 88. 90, vous voyez, il a 48 ans. Sa femme a engagé chez eux une lingère. Cette petite s'appelle Jeanne Roseraud. Elle a juste 20 ans. C'est la fille d'un meunier de Bourgogne. Elle, 20 ans, Zola, 48. Zola n'avait jusqu'alors jamais trompé sa femme. C'était un homme chaste et qui n'avait peu de tentatives. Et voilà que tout à coup, il s'aperçoit dans ce printemps 88 qu'il se met à désirer et à aimer cette fille. Et bien, il faisait une émotion quand il veut sortir de la vie. Il avait écrit un livre, pas vu, que tout le monde connaît, où il montre la monstruosité de l'égoïsme de ces grands bourgeois qui utilisent leur domestique à toute fin. Et bien, c'est une domestique qui est chez elle et qu'il est en train de désirer. Il parlera dans ses notes de séduction d'art. Il a résistant qui pourra, elle aussi. Elle s'est mise à l'aimer. Elle avait d'abord une étude de génération pour ce monsieur de la qui était très bon, qui était une immense notoriété. Et peu à peu, elle s'aperçoit qu'effectivement, elle l'aime. Et c'est le 11 décembre, 88, si j'ai mis la date pour vous montrer à quel point ils ont été, puisqu'ils s'aimaient sans doute du mois d'avril, le 11 décembre, 48, qu'elle se donnera à lui. Et bien, il est à la fois heureux et malheureux. Malheureux parce qu'il sera d'accord avec sa conscience, parce que ça l'ennuie de voir que ça, ça se cache naturellement, mais elle le saura, il a laissé pénible. Il lui a fait des promesses, de fausses promesses, quoi, il s'est parjuré, il a dit qu'il la reverrait, il la revoit. Madame Zola va fracturer un traiteur pour essayer de trouver l'aide de son mari, c'est des choses assez désastreuses. Si on a des lettres de Zola, son ami Bruno, il lui dit, ma pauvre femme, ma pauvre Alexandrine, je ne serai jamais heureux. Si je la suis malheureux, c'est du double, ce partage. J'avais rêvé de rendre tout le monde content autour de moi, et je suis le premier frappé. Et comme il avait fait, disons, avec Berthe, et avec celle qu'il a épousée, Alexandrine, jamais n'acceptera l'idée d'abandonner quelqu'un dont le corps lui a été donné. Parfait. Jamais il ne la quittera pas. et même comme une sorte d'excuse, une légitimation à ce qu'il aurait appelé autrefois un péché qu'il appelle maintenant une faute, il va se dire au moins si cette femme, si cette fille me donnait les enfants que ma femme n'a pas pu me donner. Dans ce livre autobiographique, le docteur Pascal, qui fera son dernier livre de Rougon-Macquart, il montrera le docteur Pascal, son puissant, vers la fin de sa vie, toute son œuvre, ce tas de taches froides qui me glaçaient les mains, si on a tout ça, il n'y aura pas d'autre être réel qu'un enfant. Et bien, grâce à Jeanne, qu'elle soit bénie, sous ses lèvres, comme il dit, ses sièges faisaient d'enfant à baiser. La petite Denise va naître la première en septembre 89, puis le petit Jacques en septembre 91. Madame Zola aura beaucoup de dignité, je dis même de grandeur dans cette affaire. Elle sait que son mari a ses deux enfants. Elle sait que assez souvent, que tous les jours il va la voir, et assez souvent quand il fait beau, Monsieur Zola regarde passer dans la rue les filles qui se promènent avec leur maman. Alors un jour, justement, il était là contre sa vie pour regarder le gosse qui passait. C'était un jour de février, il a senti tout à coup une main sur son épaule, c'était sa femme qui était entrée dans son dîner de travail, et qu'elle lui a dit, d'une voix probablement un peu étranglée, allons faire les montées. Et dorénavant, elle les verra tous les jeudis. Ce qu'elle fera bientôt, c'est ceci. Et comme il se trouve que Jeanne Roseraud mourra la première en 1914, et que Madame Zola vivra en 1925, Madame Zola fera tout ce qu'il faut du point de vue officiel pour que les enfants puissent porter le nom de Zola. Et ce sera véritablement ses enfants. Cette femme a avancé, cependant, à travers des quantités d'orages. Il avançait parce que les honneurs lui venaient. Il avait été décoré de la Légion d'honneur, chevalier en 88, puis officier en 93, puis président de la Société des gens de lettres en 91. Et même, il avait fait une candidature qui avait fait beaucoup sourire et beaucoup crier. Candidature à l'Académie française à partir de 1990. Vous n'imaginez pas les colères qui se sont déchaînées à ce moment-là contre lui. L'annoncement des caricatures, enfin l'Académie française, recevant M. Zola, ça paraissait un blasphème, une monstruosité. Tous les journaux se divertissaient à ce propos. Il faut comprendre que c'est un homme qui est entouré d'une double fureur. Premièrement, il y a la fureur de la jalousie. Mon Dieu, c'est compréhensible, quoi. Les camarades qui se rendent compte que eux, ils ont des tirages assez moyens. Ces tirages de Zola, au contraire, sont astronomiques. Alors ils comparent, ça leur fait pas plaisir. Si bien qu'on voit Barès, par exemple, qui est pourtant intelligent, mais qui dans un article exploite le bout de l'oreille en disant « Monsieur Zola est incontestablement une des grosses forces commerciales de la librairie française. » Vous avez compris, il y a fait commercial, c'est un commerçant, mais c'est son talent, c'est chose. Puis je vois les Goncourt, enfin Goncourt, celle qui restait, qui parle de Zola en l'appelant d'une manière raciste. « C'est ça l'italiana !» Bah, tout simplement, c'est dans les petits. Bon, mais il y a ça, mais il y a autre chose, il est bien plus grave. Il y a autour de Zola ces exécrations n'ont pas de peur. Il dit des choses qu'il ne faut pas dire. Il n'a pas fait carrière par les salons. Il n'a pas avancé comme tout le monde, comme les adroits, comme les intelligents, à la Brunetière, ou à la Gilles Lemaître, ou à la Barrette. Il n'a pas avancé par les belles dames, par le journalisme brillant. Il a avancé tout seul. Et il n'a pas signé ce pacte non écrit des écrivains bien pensants et qui justifient à l'Académie. Un pacte évidemment. Il y a deux choses qu'un écrivain inconvenable ne doit pas faire. Il ne doit pas parler d'une certaine manière de la sexualité et il ne doit pas parler de l'argent. La sexualité, Zola, au contraire, va en parler brutalement. Il exaspère Zola, par exemple, à l'égard de Georges Sand. Georges Sand l'agace beaucoup. C'est que Sand dit à maintes reprises sans cesse qu'il n'y a pas de plus belle chose et de plus beau péché que l'adultère. Et lui dit, mais l'adultère s'accompagne toujours de mensonges et le mensonge n'est jamais dit. Et d'autre part, sexualité, oui, on peut bien parler de l'amour dans les romans à condition d'y mettre un voile doré. Mais lui va montrer la peur de l'enfant dont on ne parle jamais dans les livres convenables. Et comme à ce moment-là, il y avait peu de moyens professionnels, il a montré l'abondance énorme des infanticides dans Paris, et les églises de Paris roulent de petits cadavres. Quant à l'argent, l'argent fait avec Zola son entrée du secret dans la littérature française Balzac. On avait parlé de l'argent. Et d'un point de vue d'avoué, si vous voulez. C'est un point de vue de sociologue, voilà. Pour la première fois, on va voir un conseil d'administration au travail. C'est dans l'argent. On va voir par exemple Baron Bourreau, qui est baron parce que son grand-père a été fait baron par Napoléon pour avoir vendu des stocks de biscuits avariés à la Grande Armée. Et lui se vante avec majesté, c'est vrai. On va voir le marquis de Bourin, qui utilise son titre de marquis pour capter les capitaux de la bourgeoisie. On va voir Monsieur de Robin Chenot, qui touche 100 000 francs chaque année de primes occultes pour donner son visa sans examen au compte de gestion. On va voir ceux qu'il appelle les entretenus, les Boisgenin, les Grégoire. ceux qui profitent de l'or que des générations de la famille et ont tiré pour eux de la terre. On va voir un grand mariage, un grand beau mariage splendide très parisien, à la Madeleine, béni par un évêque, Monseigneur Martin, et à la sacristie, et de là, on voit défiler ses visages suivant les crimes de l'argent. C'est en ça, il va nous montrer, c'est en travail ça, le capitaine Jolivet, qui est un capitaine qui conçoit l'armée comme il faut, une armée à usage interne. Le capitaine Jolivet dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, les intellectuels, j'aime pas, moi, les gens à idées. J'ai eu des idées, vous, moi, je suis pas avec le sabre, ça, le sabre, on le voit. Heureusement que l'armée est là, les capitaines, pour empêcher le passage, le triomphe des coquins. Et cela nous a montré dans l'assommoir, l'enfer, de la goutte d'or du quartier de la Chapelle. Dans Germinal, l'enfer des mineurs d'Anzin. Dans l'argent, l'enfer de ce bidonville qui s'appelle la cité de Nap, et on voit son personnage de Paris qui s'appelle l'habituaire Froment, qui revient effaré de cette excursion qu'il a fait dans les quartiers de la misère et du travail, l'univers concentrationnaire des pauvres. Il est allé voir les travailleurs de Ménilmontant et de Montmartre. Et l'habituaire revient en se disant effaré d'avoir découvert sur quelles abominations repose la félicité des nantis. C'est tout cela, ça équivalait à une espèce d'attentat. On le détestait, voilà, comme un homme infiniment dangereux. On lançait sur lui toutes sortes de calomnies, disant que c'est un homme d'une grande bassesse, d'une grande brutalité. Et il est vrai, dans l'ensemble de son œuvre, il y a des choses très brutales. Pourtant, je voudrais faire attention sur une chose vérifiable, facilement vérifiable. C'est un homme tendre, un homme extraordinairement vulnérable. Si dans son œuvre, il y a peu de scènes poignantes, c'est que lui-même éprouvait une telle peine, ressentait si galamment qu'il écrivait, qu'il essayait d'écarter de son œuvre, ce qui aurait pu trop l'émouvoir. Et je voudrais vous parler ici d'une seule preuve. C'est dans l'assommoir. C'est une scène de l'assommoir que je ne sais pourquoi le film n'a pas retenu. C'est un beau film, son mariage lui est admirable. C'est un film qui a été remarqué qu'à faire du chantier. Il est devenu Jarvès, parce qu'il semble qu'il ne fallait pas trop parler de l'assommoir et de l'alambic, ça pouvait gêner certains intérêts. Alors on en a fait surtout une histoire sentimentale et pas une attaque contre l'alcoolisme. À la fin, moi, je voudrais vous parler, qui est ça dans le film, n'était pourtant pas attentatoire aux intérêts des vendeurs d'alcool. On va la cette scène. Vous rappelez dans le film, Marie-Achelle restait belle jusqu'à la fin. Eh bien, elle n'est plus belle dans le roman. Au contraire, elle est une énorme femme encore plus bancale qu'elle n'était au début. Elle se prostitue. Elle est chez l'ouvert de la chapelle. Elle va rencontrer un soir Gouget. Il est dans le film, vous avez été le forgeron avec une belle barbe. C'était un homme qui l'avait aimé. Elle l'aimait aussi, purement, jamais il s'était touché. Et voilà qu'elle l'aborde. Sans son fils d'eux, comment elle est tombée là, elle est devenue prostituée, alors il l'emmène dans sa chambre. Il lui demande qu'elle veut manger. Elle mange en effet tout le monde de sa famille. Et voilà la scène finale. Voulez-vous encore du pain? Il lui demande si la nouveau. Elle pleura. Elle disait oui, elle disait non, elle ne savait plus. Ah Seigneur, que c'est bon et triste de manger quand on crève. Et elle torchait ses larmes avec le reste au fond du poêle. Zola est la fabrique. C'est une histoire terriblement confuse encore, sa fabrique. On s'imagine volontiers que c'est clair, qu'on est entendu, le Dreyfus est un innocent et qu'on a trouvé une couvade qui s'appelle Esterhazy. Je n'en suis pas absolument sûr. Oui, l'innocence de Dreyfus, certainement. Alors voilà comment je vais faire. Je voudrais vous présenter quelques étapes de l'affaire, ce que l'on en sait aujourd'hui, pour voir l'assertion de Zola. Ça commence au mois de septembre 94. C'est en septembre 94 que le SR, le Service français des renseignements, met la main, je mets en cuisinière, on ne sait pas trop comment, obtient un document, une lettre, qui était non signée, non datée, qui a été prise à l'ambassade d'Allemagne, une lettre que j'avais dû recevoir, attaché littéralement, qui s'appelle Schwarzkoppen, j'ai dit bien que j'avais dû recevoir, parce que c'est encore extrêmement confus, une lettre qui énumérait les documents que quelqu'un remettait à s'attacher littéralement. C'est document important pour la défense nationale, il y avait la victoire d'artillerie, il y avait sur Madagascar, enfin c'était évidemment un signe de trahison. Qui a écrit cette lettre? C'est tout le problème. Alors on réfléchit, on se dit, il y a des questions d'artillerie, donc probablement c'est un officier d'artillerie, d'autre part ce sont des questions très secrètes, alors c'est pas un officier de troupe. C'est quelqu'un qui a dû avoir accès à ce secret, donc un officier ou bien d'état-major, ou bien qui a fait un pas dans l'état-major, et pendant des semaines, on s'appelle. Et voilà que quelqu'un, qui est le Zabovine, qui est le colonel, dit qu'il a trouvé. Il s'agit d'un capitaine, juif, qui s'appelle Albert Dreyfus, qui avait été stagiaire à l'état-major, qui est maintenant dans un régiment. Faut pas oublier qu'il y avait à ce moment-là, en France, une grande campagne antisémite, Et en particulier un journal qui s'appelait La Libre Parole, dirigé par Bruno, qui tenait une rubrique intitulée Les officiers juifs dans l'armée. Alors il arrivait une ressemblance entre le fameux bordereau, c'est-à-dire la lettre et l'ignorant du document livré, et l'écriture de Dracy. On convoque naturellement les experts, ils ne sont pas d'accord. Il y a trois experts qui disent oui, c'est certainement l'écriture de Dracy, c'est deux autres qui disent non, ça n'a pas l'air d'être l'écriture de Dracy. Et comme on ne sort pas si c'est dans mon conseil de guerre, toutes les chances, semble-t-il, que devant la mésentente des experts, le conseil de guerre pose de preuves la fille. Alors, le ministre de la guerre, qui était un général, c'était le général Mercier, commet exactement un crime juridique. Il va remettre au juge militaire en secret les documents sur Dracy. C'est juridique parce qu'on n'a pas le droit de condamner quelqu'un sans lui montrer sur quoi on le condamne et en cachant même ses pièces à son avocat. Et c'est maître de Mercier, c'est l'avocat de Dracy. Maintenant, c'est ce qui va se passer. On ne parlera pas au procès même des documents que le ministre de la guerre a remis, c'est simplement lorsque les juges se sont retirés pour délibérer que secrètement on remet au juge ces fameuses pièces secrètes et mystérieuses. Sur le but de ces pièces, les juges se décident et le récit est condamné à l'unanimité, condamné à la dégradation et à la déportation. La dégradation de récit a lieu dans une circonstance très dramatique, comme toute grande dégradation devant 6 mois de troupes dans la cour de l'école militaire. Il apparaît là, en grand uniforme. Un adjudant lui enlève ses boutons, lui enlève les décorations bien sûr et aussi ses galons, et ce malheureux va être obligé de défiler entre les quatre soldats à hauteur sur le front des troupes, et quand il défile, il crie d'une voix misérable, éteinte. Vive la France, je suis innocent. C'est un homme qui ne payait pas de mine, bref, qui ne m'attirait pas la sympathie. Un visage assez ingrat, des yeux qu'on voyait mal derrière des lorgnons, aucune générosité humaine, semblait-il aucun élan qui sortait de lui. Tout le monde a une chose troublante, c'est qu'on ne comprenait pas pourquoi ces hommes avaient bien pu trahir. Étant donné, premièrement, qu'il était alsacien et d'une famille qui avait à distance l'Allemagne, l'Alsace pour ne pas rester sur la domination allemande, il était riche par conséquent 25 000 francs de rente, il n'avait pas besoin de se vendre, qu'il avait une vie absolument rangée, il était marié, deux enfants, un ménage qui s'entendait parfaitement, un homme qui ne sortait pas, qui ne jouait pas, qui n'était pas de dette, pourquoi avait-il trahi? Cependant, on a affirmé que le bordereau était lui, et que d'autre part, c'est un métier secret, c'est un métier, c'est une famille. Alors, il est condamné, dégradé et envoyé, comme vous le savez, à la fameuse île du Diable, sur les bords de la Guyane. Ce qui vient de vous dire, elle est 5 janvier 95, la dégradation. Une année, je ne sais pas. Nous sommes maintenant en mars, avril 96. Le service de renseignement a changé de titulaire. Ce n'est plus le colonel sans R, c'est un lieutenant-colonel qui s'appelle Picard. Ce lieutenant-colonel Picard, à entre les mains, obtient un nouveau papier. Une lettre qui vient dans la salle d'Allemagne, qui est écrite par Schwarzenkopf, Karkoppen, l'attaché militaire allemand, ou du moins dicté par lui, et qui porte une suspension, c'est un petit bleu, comme on dit, c'est-à-dire un pneu, enfin une carte pneumatique, envoyée à un certain commandant Esterhazy. Ça intéresse beaucoup le chef du service de renseignement. Enfin, qu'est-ce que peut dire vouloir cet attaché militaire allemand, Karkoppen, à un commandant d'infanterie française qui s'appelle Esterhazy? Picard, comme c'est son devoir, fait faire une enquête sur Esterhazy. Drôle de personnage. Le colonel de son régiment, qui s'appelle le colonel Curet, donne les plus mauvais renseignements sur cette Esterhazy, qui l'appelle, une espèce de rastaquel. On sait d'autre part qu'il a pratiquement cité sa femme. Il joue sur une prostituée, qui s'appelle la fille Peggy. Il y a des histoires misérables escroqueries. Ce personnage, subitement, n'assure pas la sympathie, certes, encore beaucoup moins de Dreyfus. Il a des yeux enfoncés, brûlants, il est paraissé une ravalée tuberculeuse, qui a un peu voûté, et ce regard de l'antichule. Enfin, on n'a pas d'autre preuve encore que ce petit bleu, c'est-à-dire cette lettre que lui adresse, mystérieusement, la régime Ivan. Tout le monde s'est bien inquiété. Et Picard poursuit son enquête. Attention à ceci, jusqu'à présent, Picard n'a pas une seule minute l'idée que l'affaire Dreyfus puisse reparaître. Dreyfus l'est condamné, il est là-bas à la famille du diable, il a été justement condamné. Mais il y a Esterhazy qui pourrait être un autre, ou d'entendre un nouveau traître dans l'armée française, par simple coup sur coup, à 2 années d'intervalle, 2 traîtres dans l'armée française. Et au cours de l'enquête que le colonel Picard poursuit, il a entre les mains de l'écriture d'Esterhazy. Regardant l'écriture d'Esterhazy, il s'aperçoit, il en est suffoqué, c'est un coup pour lui, que l'écriture d'Esterhazy correspond à l'écriture du bordereau sur laquelle on a condamné Dreyfus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien entendu, le colonel Picard va exposer l'affaire à ses chefs, son premier chef direct, c'est le sous-chef de l'état-major de l'armée, général Bon, et son chef suprême, c'est le chef d'état-major de l'armée, général de Boisdet. Puis ça reste stupéfait. La réponse que lui fait, donc, et ensuite, il lui confirme Boisdet. Et même, on envoie au ministre, il s'appelle Billot, qui confirmera la position de ces deux généraux. À savoir que, on le ferait naturellement à poursuivre son enquête sur la chirurgie pour le démasquer, c'est un prêtre. Mais qu'en aucun cas, il ne doit mêler la question gratuite à la question chirurgie. Absurde. Puisque justement, toute l'affaire, c'est savoir qui a essayé de bordereau et qui s'est gratuit sur les chirurgies. Alors, se développe contre Picard toute sorte de manœuvre stupéfiante de la part de l'état-major français. Il décide qu'on est la chercheur à Picard, qu'on le dépossédera et qu'on le perdra. On l'éteint. Lui qui est chef du service de renseignement dans la fonction d'être à Paris, on envoie en mission d'abord dans l'Est, puis à peine a-t-il terminé sa mission dans l'Est, dans le Midi, à peine a-t-il terminé à Marseille pour l'avoir à Constantine, puis de Constantine au sud qui nous vient et on le verse finalement dans la région de Tirailleurs. Donc il est écarté et dépossédé. Mais il y a mieux, on essaye de le perdre. De faux télégrammes lui sont adressés, qui seront dans son dossier, des télégrammes tendant à faire croire que c'est lui qui a fabriqué, qui a fait un faux, qui a fabriqué le bordel. Alors, assez effrayé de tout ce qui se passe, il s'en ouvre un de ses amis, qui est un avocat, qui s'appelle Leblois. Et Leblois lui-même va trouver un personnage très important à ce moment-là, qui s'appelle Scheurer Kestner, qui était président du Sénat, qui était un vieil Alsacien irréprochable, respecté partout. Et Leblois explique à Scheurer Kestner tout ce que je viens de dire. Scheurer lui dit, c'est infiniment grave, parce qu'il en a vraiment découvert l'auteur du bordel, alors que M. Brassus, qui est pas au bac depuis 2 ans, il ne mérite pas. Scheurer Kestner va trouver le président de la République, ça fait l'histoire, il explique la chose. Le président de la République dit, moi je suis incompétent, il est responsabilisé à nous voir ministre de la guerre. Scheurer va voir Billot qui tutoyait le ministre de la guerre, il lui dit, il faut reprendre l'affaire. Et à ce moment-là, Billot hésite, il dit, oui, non. Et Scheurer Kestner lui dit, vous savez, attention, voyons, attention. S'il ne faut pas l'armée elle-même, qui prend l'initiative de la révision de l'affaire Brassus, ça va se savoir avant le public. La famille Brassus qui n'a jamais voulu croire à la culpabilité d'Alfred Brassus va alarmer l'opinion publique, alerter l'opinion publique, et c'est l'armée qui se trouve dans un très bon état. C'est à ce moment-là que Zola va intervenir dans l'affaire. Zola, en 1994, était à Rome, en train de préparer son livre sur Rome. Il avait simplement lu, comme tout le monde, dans les journaux ce qui s'était passé, et ça n'avait pas particulièrement frappé. Il a clairement dit qu'il y a une guerre, voilà, la gouvernance était une trahison. En revanche, il était un peu intéressé à l'affaire de la dégradation parce qu'il déjeunait ce jour-là, 5 janvier 1995, chez Alphonse Daudet. Et Léon Daudet, le fils d'Alphonse, qui est devenu une très célèbre comme police, était allé voir cette dégradation. Alors il rentre vers minuit et demi et il raconte à son père, à table, et à Zola qui était là, ce qu'il a vu. Et Zola est intéressé, mais comment dirais-je, d'un point de vue plutôt esthétique, en disant oui, ça serait une scène admirable, ça suffit à raconter dans un roman. Il s'en occupe beaucoup. Alors voilà justement qu'à l'automne 1997, Scheurer Kestner, Leblois, enfin tous ceux qui ont appris la vérité par Picard, viennent le trouver. Elle lui dit, un homme comme vous, avec l'audience qu'il a, qui nous aide à alerter l'opinion sur ce drame, peut se faire entendre. Et voilà ce qui intéresse en effet beaucoup. Et je vais vous faire remarquer qu'il y va sans violence, sans passion. Il est convaincu qu'il n'y aura pas, quoi, si j'en l'appelle aussi, que c'est tout simple, puisqu'on a découvert qu'elle était coupable, ça a dit. Il va forcément se coupable être traduit en justice militaire, en la partie dans la consigne de la guerre. Alors on le condamnera, puisqu'on a contrôlé toutes sortes de preuves, ressemblant à l'écriture, le ciblé, etc. Et dès qu'il sera condamné, naturellement, il sera libéré. Alors les deux premiers articles que Zola publie sur l'affaire sont des articles parfaitement calmes et tranquilles. Le premier s'appelle justement Scheurer Kestner, tant pis, c'est un article qu'il a donné au Figaro le 25 novembre 1997. Et il a intitulé Scheurer Kestner pour dire au public français, voyez-vous, si un homme comme Scheurer Kestner, un homme âgé, n'a plus d'ambition, et est universellement et légitimement respecté, a pris position, vous pouvez lui faire confiance. C'est un homme insoupçonnable du point de vue patriotique, et qu'aucune façon ne s'est pas dit. Et comme les journaux nationalistes ont inventé à ce moment-là la parade de l'invention d'un syndicat et d'un S-Majesty, Drummond a publié un article calibrant là-dessus dans sa libre parole, le syndicat. Le syndicat, ça serait paraît-il la juiverie internationale qui a amassé l'or des 30 et 40 millions pour acheter les consciences en faveur du traître reçu. Ben, cela répond en violence, en souriant même. L'article s'appelle justement Le syndicat, 1er décembre 1997, dans le Figaro. Et il dit, mais bien sûr, entendu, il y a un syndicat. C'est le syndicat de tous les hommes de bonne volonté, j'en suis, et que les braves français de France rentreront comme moi. Donc, on est convaincus. Qu'est-ce qu'il y aura de passant en jugement, l'affaire est liquidée.
Eh bien, vous savez ce qui va se passer, c'est que c'est l'état-major même qui avait dit à Hector Adjilivement, dis donc, à partir d'Adjilivement, vous ne craignez rien. Le conseil de guerre est une espèce de plaisanterie qui se déroule le 8 et 11 janvier 98. Effectivement, tout de suite, Hector Adjil est renvoyé à quitter blanc comme neige. C'est un coup de massue pour les amis de Brésil. Seul, Zola reste debout et prend à ce moment-là une décision dont il devrait faire comprendre le mouvement intérieur. Il s'était gardé depuis toujours de l'engagement politique. C'était quelqu'un qui redoutait la mêlée. Il avait écrit l'assommoir. Alors, des écrivains socialistes s'étaient approchés de lui en lui disant, mais rejoignez nos rangs, un parti socialiste. Mais il s'était défendu. Il avait dit, je verbalise seulement. Vous voyez quoi, je fais un procès verbal, je fais un constat. Mais je ne conclue pas, parce que selon moi, la conclusion n'appartient pas à l'artiste. C'était une manière de retrouver la vieille doctrine de l'art pour l'art, quoi. C'est pas mon affaire. En 85, avec Germinal, il avait fait un pas dessus. Germinal est une mise en accusation, non pas de l'alcoolisme, mais de l'ordre social même. Et il avait été loin, parce que dans un journal, il avait fait la déclaration que voici, oui, j'ai voulu pousser un tel cri de pitié et de justice que la France cesse de se laisser dévorer. Ça, c'est un engagement. Et bien, comme s'il avait peur de ce qu'il avait fait, il avait fait une marche arrière après. Regardez par exemple dans l'affaire, c'est 87, dans la débarque, c'est 92. Chaque fois qu'il met là un personnage de socialiste, l'un s'appelle Canon dans l'affaire, l'autre s'appelle Chuteau dans la débarque, ce sont des personnages réputés. D'autre part, Zola n'aime pas les politiciens. Il m'a fait dire par son personnage de sous-marine dans Germinal, des politiciens qui sont des gens qui s'enrichissent à faire des phrases. Oui, il s'est rendu, mais seulement cette fois, il ne s'agit pas de politique. Oh, j'entends bien que Maurice Barrel, dans ses cahiers, s'applique à dire que la sœur Vassus, après tout, n'est qu'une historiette, je trouve que le mot qu'il faut valoir. Une historiette qui n'a, dit-il, que l'intérêt grossier d'un roman féchiston. Pour cela, non, autre chose. Et il écrit, donnant à chaque syllabe son poids, c'est l'histoire d'un juif crucifié. Une espèce de toxin, de traîner en lui. Pas grave, qu'il soit tout mal préparé que lui à la bataille politique. Docteur Toulouse avait publié sur lui, pour cela, en 96, donc 2 ans avant le moment où nous sommes, un drôle de lui. Une espèce d'analyse psychomédicale, du temps de là. Et Zola avait accepté ça très gentiment, il avait même fait une préface pour lui. Ce livre ne disait pas des choses agréables sur lui. Il disait qu'il était un homme d'une sensibilité morbide, avec des manifestations excessives et maladives, révélant que, par exemple, Zola avait peur, physiquement peur, de la foule. Qu'il avait peur, physiquement peur, de l'orage. C'est quand il y avait des effets révolutionnaires, il s'enfermait chez lui, il fermait les questions, c'est une sage précaution, mais il faisait allumer l'électricité, mettait un bandeau sous les yeux. Un homme qui est incapable d'avoir du sang-froid dans la discussion. Il n'a pas de présence de D'autre part, il ne sait pas non plus parler en public. Lorsqu'il a été président de la Société des Anglais, il a été obligé, bien entendu, de par ses fonctions de prononcer des discours. Ses discours sont citoyables. Il n'a aucune invention verbale, il nie tout. D'autre part, comme il est très myope, il lui a mis un petit peu de la devant son nez, et il fait des discours, il assiste tout le temps, enfin, les gens rient, en de la part. Eh bien, s'il va s'engager dans la chambre de c'est une mauvaise conscience en lui. Sachant bien comprendre. Premièrement, quand il s'est présenté à l'Académie française, ses camarades de départ, ceux qu'on a fait les amis d'histoire et du Médan, n'avaient pas beaucoup donné ça. On avait dit quoi? Alors, il y a deux Zola, c'est chez Arthur, il y a deux Zola, il y avait un Zola provisoire autrefois qui feignait de ne pas aimer les bonheurs, et puis, il y a le vrai Zola de maintenant qui est arrivé, qui va encore plus arriver et s'installer dans le monde. Il avait faim de hausser les épaules, de prendre face au tragisme, mais ça l'ennuyait. Deuxièmement, il s'est dit, je ne veux pas me mêler de poussé à une révolution sociale, parce qu'une révolution, il y a toujours du sang répandu, des violences, et je ne veux pas, moi, avoir sur les mains du sang. Bon, c'était vrai, c'était noble. Zola était quelqu'un qui avait vu la commune, qui avait vu Paris en feu au mois de mai 71, et ça l'avait laissé terrifier. Mais en même temps, quand il réfléchit, il s'aperçoit que cette responsabilité dont il parle se mêle beaucoup dans sa pensée à sa tranquillité. Il veut pas de responsabilité, mais il veut aussi être tranquille dans son coin, dans ses coussins, dans sa belle maison, à être réveillé tranquillement, précisément. Troisièmement, il accuse des politiciens d'être des gens qui s'enrichissent en vendant des phrases. Lui aussi. Et qui s'est enrichi justement en vendant des phrases. Et quelles phrases? Beaucoup de choses brutales, terribles et sexuelles dans ses livres. Oh, je sais bien que toujours il disait que ce qu'il voulait faire, c'était d'inspirer l'horreur du mal en le décrivant, c'est un très vieil artifice, vous savez, je me rappelle de voir, très vision, au siècle précédent, très vision aussi. qui s'est spécialisé dans la littérature pornographique. Ben, il avait soin de mettre, au début de chacun de ses livres, une phrase par partenaire, où il expliquait aux gens que s'il écrivait des choses épouvantables, c'était pour inspirer leur musique à l'amour de la vertu. Vraiment, ce que je la pouvais croire avait connecté que si des légions françaises se précipitaient sur ces bouquins, c'était pour favoriser en eux la vertu. Et enfin, quand on était encore plus dans le secret de son cœur, depuis 1888, cela est un homme qui vient une mauvaise intelligence avec lui-même, parce qu'il a ses vies doubles, parce qu'il joue dans cette adultère qu'il a condamné. Alors, il prend le départ en 1988, il fait ce qu'il va faire, se risquant à fond, c'est précisément parce que c'est coûteux. On dira lui, il a cherché la réglage, c'est justement le contraire, ça y est. Parce que s'il avait été un peu gentil, s'il n'avait pas pris cette position-là, s'il n'avait pas attaqué l'état-major, il était sûr d'entrer à l'Académie française. Il avait déjà 11 voix à la dernière élection. Avec un peu de gentillesse, il y entrait. En prenant la position qu'il apprend, il s'affirme à sa candidature académique. Il le sait, il est d'accord. D'autre part, 98% de l'opinion publique en France est convaincue de la justice coupable. Toucher à l'état-major, ça blasphème, c'est un scandale, il va perdre une partie de sa clientèle. Puis encore, il y a des gens déchaînés dans Paris. Il y a des tueurs que l'antisémite Guérin a fait venir d'Alger. Ils crient à mort, Zola. Zola, c'est sérieux. Il a fabriqué un coup de couteau, un coup de revolver. Il va pour le coup de couteau et le coup de revolver. Zola s'engage précisément parce qu'il y a un risque pour faire au moins une fois dans sa vie quelque chose d'absolument propre. Ce que Zola va faire, il faut bien s'en rendre compte, ça n'est pas une opération polémique, une opération stratégique. Voilà le raisonnement qu'il a fait. Il s'est dit, c'est couru maintenant, c'est vu. Tant que l'affaire restera entre les mains des tribunaux militaires, tant que l'état-major pourra étouffer cette affaire dans la nuit des tribunaux de privilèges, c'est fini, on n'obtiendra rien. Il s'agit donc d'obtenir la réfraction, d'amener cette affaire devant un tribunal civil. Et pour ça, c'est lui-même qui a fait ce, à savoir qu'il va attaquer directement et nommément les généraux, afin de se mettre sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse, et de se faire traîner en justice, mais lui civil devant la justice civile, et par conséquent, devant la cour d'assises, il pourra dire ce qu'il est interdit de dire devant les tribunaux militaires. C'est pourquoi il va lancer pour faire des articles une lettre au président de la République, dont Clemenceau vous le savez, a changé le titre, l'appelant J'accuse, où il accusera nommément, j'accuse le général de Boisdeffre, j'accuse le général Bon, j'accuse le premier conseil de guerre, j'accuse le second conseil de guerre, celui qui avait acquitté Sarrazy, d'avoir acquitté par ordre un coupable. Le gouvernement et l'état-major sont extrêmement humiliés. C'est précisément dans la fête qu'on ne devait pas faire. On va parler de ce que l'on ne devait pas dire. Alors pendant 5 ou 6 jours, on décide de faire comme si on n'avait rien dit. Ce qui était tout de même désagréable, enfin pour les généraux qui venaient d'être bafoués par lui et qui faisaient semblant de ne pas avoir senti le coup. Comme l'opinion publique n'acceptera pas ça, on trouve enfin un biais. Comme Zola a dit dans son texte, j'accuse le second conseil de guerre d'avoir par ordre acquitter un coupable, c'est sur ces mots par ordre qu'on va tâcher de coincer. On lui fera un procès, la plainte ne portera que là-dessus, sur ces mots par ordre, parce qu'on est sûr qu'on le tient. On lui demandera de prouver que le conseil de guerre a acquitté par ordre. Naturellement, les généraux n'ont pas eu d'enfantillage, ils ont donné un ordre écrit que l'on puisse produire, un ordre écrit au conseil de guerre d'acquitter. Alors on tiendra bien en lui disant, mais faites dans la phrase, il ne peut pas la faire. Si bien que ce procès se déroulera d'une manière absurde, toutes les fois qu'on décidera de parler du coup, c'est-à-dire de la question de sur la question de dit, chaque fois le président, parce que c'était le garde, va intervenir en disant, la question ne sera pas posée. Le résultat sera obtenu, il sera condamné au maximum, c'est-à-dire 3 000 francs d'amende et un an de prison. Vous savez, la suite, voilà qui va à ce moment-là, forcément, de fait. Et c'est en Angleterre qu'il entendra le retentissement de ces deux énormes coups de tonnerre qui vont ébranler la France et même le monde, parce que le monde passionnait pour sa fête, le coup de tonnerre du 30 août 1898, Henri, le colonel Henri, chef du service de renseignement, avoue, devant le ministre de la guerre Cadenas, avoue qu'il a fabriqué lui-même la pièce capitale qui est établissait par-t-il la culpabilité grecque. Il a fait un faux, c'est ça. Et le lendemain, 31 août, second coup de tonnerre, pire que le premier, le colonel Henri avait signé naturellement aux arrêts de rigueur au Mont Valérien à la suite de son aveu, et ce 31 août, dans sa cellule du Mont Valérien, on le trouve la gorge ouverte. Bien entendu, c'est la révision du procès qui s'impose, puisque le document capital contre Dreyfus n'existe plus. Mais révision du procès, c'est de nouveau Dreyfus passant devant un tribunal militaire, et c'est le conseil de guerre de Rennes qui va juger Dreyfus
est condamné à nouveau Dreyfus innocent.
Seulement comme l'opinion publique chez soi est alarmée, et que tout le monde, ou presque tout le monde, comprend que Dreyfus est un innocent, il y aura quelque chose d'absurde que le conseil de guerre va le condamner avec circonstance atténuante, afin de préparer cette grâce déjà prévue, grâce que le président de la République va donner à Dreyfus, ce qui est d'ailleurs monstrueux, parce qu'on ne gracie pas un traître qui peut se faire après son crime, et on gracie encore moins un innocent. Mais l'idée de la grâce était pour préparer une amnistie générale, c'était la grande pensée du nouveau ministre de la guerre, encore un général qui s'appelait Gallifet. Gallifet s'était dit l'affaire est très très mauvaise pour l'armée, bien entendu qu'on va la reconnaître, maintenant qu'on est fou. Alors on cherchera le vrai coupable, et ceux qui ont couvert le coupable, et par conséquent il faut qu'on n'en parle plus. Amnistie. Amnistie non seulement pour Dreyfus lui-même, mais pour tout fait connexe d'une tête, tout fait connexe à l'affaire Dreyfus. Autrement dit, lorsque Dreyfus sera réhabilité, les vrais coupables seront couverts par la nuit. La Gola assistera à ça, il ne verra pas Dreyfus réhabilité, puisque Dreyfus le sera en 1906, et que Zola va mourir en 1902. Le déchaînement des haines contre cet homme à cause de la position qu'il avait prise est inimaginable. C'est un critiquement brasier. Il n'y a qu'à regarder les fameuses caricatures, enfin si nombreuses que nous avons, les journaux de l'époque contre cela, ils sont atroces, enfin ces caricatures qui inlassablement leur présentent avec un pot de chambre dans une main, avec une autre main derrière le dos recevant des sacs d'or, des joufous de l'Allemagne, un Zola traîné dans la boue parce qu'il a parlé pour la vérité. On criait en effet à mort Zola, on ne se contentait pas de crier à mort, il fallait que la police le protégea. Là, la comtesse de Martel, qui s'est affligée en littérature, qui est spécialisée par l'agression permanente, presque quotidienne, contre Zola, qu'elle appelait Zola la honte, Zola l'italien, Zola le souteneur, Zola la débat. Et la petite Denise, qui avait à ce moment-là 9 ans, nous racontera dans le très beau livre qu'elle a fait sur son père, qu'elle avait reçu une lettre à son nom, Denise Zola, qu'elle avait ouvert la lettre, qu'elle avait trouvée dans l'enveloppe, une photographie de son père, dont on avait crevé les yeux. Teddy, il s'intéresse pas beaucoup jusqu'à l'heure de là, Teddy a voulu le voir. Il est allé le voir, il lui a demandé un rendez-vous au lendemain de l'affaire J'accuse, parce que, comme il le dit dans son texte, il voulait avoir cette impression du face à face, que rien jamais ne remplace. Il voulait avoir devant lui l'homme qui avait fait ce qu'il avait fait. Elle est très belle, la description est très simple, la description de ce que Teddy nous apporte de cela. C'est un petit peu l'artiste qui est peu volumineux, qui marche, un peu frileux, qui avait l'air d'un vieux paysan, avec ce visage triste et bon qui était le sien. Des traits d'épines tirés et pommes retirées vers le dedans. Bandine, pas belle, hein, dans une chaleur de Bandine. En 1974, ce moqueur de Zola disait, c'est un homme qui a toujours l'air de n'en parvenir. Il est impressionné par toute chose comme le serait un sauvage ou un enfant. Eh bien, c'est lui la reprendre, sans savoir qui la reprend. Ce mot de bandit, c'était 74, le mot de bandit, et c'est en 98 que j'ai écrit ce et dit ce qui me frappe, quand je regarde, quand j'écoute cela, qui me frappe, c'est l'extraordinaire fraîcheur. C'est comme s'il n'est plus jeune, il y a 58 ans. Fraîcheur, il y a chez lui à s'étonner encore aujourd'hui de ce qu'on fait de bête, de laid, de mauvais. C'est vrai, vous savez, si vous reprenez le premier livre de Zola, enfin le second livre, plutôt cette confession de choses dont je parlais dans mon premier entretien, c'était justement l'histoire de quelqu'un qui s'étonne, c'est quelqu'un qui n'en revient pas. C'est cet étudiant d'une province qui est à Paris, et qui s'étonne avec horreur, qui se scandalise de ce qu'il voit dans Paris. Et il dit dans son livre, oui, combien sommes-nous là, peut-être 2, 3, je dis en, sur nous, à nous sentir crever le cœur au spectacle des abominations. Les autres hommes, on va dire, qui vivent tranquilles, infâmes et souriants. Et il ajoutait, je resterai peut-être toujours un enfant. Il dit ça à 25 ans. Et à 53 ans, lorsqu'il écrit son docteur Pascal, qui est le dernier ouvrage de la série de Lourdes Matard, il s'attendait de docteur Pascal, qui, à plusieurs reprises, il dit qu'il frappait quand on s'approchait de docteur Pascal et qu'on le regardait. C'était justement ses yeux. Ses yeux qui avaient gardé justement la vieillesse. Une espèce d'enfant. Il ne faut pas oublier que Zola a été longtemps un enfant chrétien, même un adolescent chrétien. On a une lettre de lui à 20 ans, il dit 10 ou 15 ans, donc il a 20 ans, 6 ans, à Paris. Et il lui fait une espèce de profession de foi. Et il lui dit, tu veux savoir que je crois, je crois en un Dieu tout puissant et juste. Je pense que ce Dieu m'a créé, qui me dirige et qui m'attend. Tu y arriveras à cela, ça arrivait à presque tous les jeunes gens de l'époque. Et déjà dans cette atmosphère de matérialisme et d'éternisme, j'ai eu une maître à penser de ce temps. Ça s'appelait Ypres, ça s'appelait Thème, ça s'appelait Renan. Et voilà, voilà ce qu'il n'était même pas Bachelot, qui a en lui une espèce de simplicité et d'humilité. Il dit tout ce que j'ai cru dans mon enfance. Mais les maîtres me prouvent que tout ça, c'est de la curiosité, c'est des illusions. Et Zola va perdre cette croyance qu'il a vécu longtemps. On va même lui voir une espèce d'allégresse dans cette condition nouvelle qui n'y a rien de tous les rêves d'illusion. Je vois dans le texte de 79 où il dit, parlant des crédules, nous vivons leur ciel, nous vivons leur bon Dieu. Ça, c'est 79. Dans 80, son ton a changé. Pourquoi? À cause de la mort de sa mère. Il a fait là cette découverte terrible du néant. C'est donc vrai, alors que ce que l'on a aimé sur la terre, on ne le retrouve nulle part. C'est pourquoi dès lors, il parlera toujours de son amère certitude. Certitude, bien entendu, certitude, oui, il n'y a rien. Mais amère certitude. Et en même temps, et là-dessus j'insiste, mais en même temps, cet homme a perpétuellement le sentiment d'une convocation, d'une convocation qui lui serait personnellement adressée. Et donc, quand il avait 20 ans, admettons que ce soit un gamin, il écrivait à base ceci, soyons apôtres. Puisque l'année suivante, je crois qu'il dit, tout cœur généreux ne sent-il pas attiré vers le ciel. Donne maintenant qu'il n'emploie plus ce vocabulaire de d'apôtre à le ciel. Il a tout de même cette conviction que quelque chose lui est demandé. On lui demandera compte de la fête étincelle. Mais que dire aux gens? Il avait raté avec sa petite verte. Quand il s'attenait à contre lui dans le lit, il essayait de lui expliquer ce que bien, c'était mal. Si j'avais dit, dit-il, si j'avais vu le sentiment d'un paradis humain, lui proposait, il n'avait pas ce qu'il dit. Et maintenant qu'il a inventé ce personnage de l'abbé Pierre Froment, un prêtre qui perd la foi et qui cherche que mettre à la place de cette foi, on voit Pierre Froment divisé et ravagé, disant quelle foi se dit dans leur esprit. Convocation, et bien il répondra à sa convocation. Même si c'est pas au juste de dire justice, bonté, il faut qu'il l'aille, tant pis dit-il, allons, en avant, même dans la vie. Dieu n'acceptera plus qu'on questionne là-dessus. Il ne veut pas déclarer athée, et il ne veut pas non plus déclarer croyant. Je vois Lucène dans la joie de vivre, qui est visiblement triste sur le dit. Il y a là la vieille sœur, un bon brave homme de prêtre. Il y a M. Chanteau, qui est le personnage principal de la joie de vivre. Et puis il y a un docteur, qui s'appelle le docteur Cazenove, qui est visiblement de la guerrière. Alors dans une discussion, l'abbé semble être méchant, dit, par exemple, le docteur, qui ne croit pas en Dieu. Alors Cazenove l'interrompt, avec une espèce de brusquerie, qui nous a dit que je ne crois pas en Dieu. Et la science, dit Zola, la science à laquelle il faut s'attacher, la seule chose que nous connaissions d'un peu sûr, cette science, mon Dieu, peut-être, elle arrivera à déboucher sur une vérité transfigurante. Il y a des textes de Zola là-dessus, étranges de là-dessus. Zola a un sentiment que si le savant arrive à percevoir ce qu'est la matière même, il n'est pas sûr qu'il ne découvrira pas que cette matière est quelque chose d'elle-même vivant comme une force, comme une vibration, peut-être comme un esprit. C'est un texte de lui que je voudrais vous apporter, qui est tout à fait la fin de sa vie. Lui dit ceci exactement, la raison. Ah oui, c'est la grande fierté. La dignité même de vivre. Mais il y a l'amour, la bonté, qui est la plus puissante. L'unique qui vient à reconquérir quand on l'a perdu. En 81, on avait publié des poèmes que Zola écrivait quand il avait 16-18 ans. C'était des poèmes pleins de foi. En vrai, qui commence comme ça. Ô toi, Seigneur, d'amour, de vie et d'espérance, toi qui, dans mon être, ce futur dont l'ardeur me rapproche de toi. Alors, bien entendu, maintenant, les ennemis de Zola utilisaient ces textes-là pour se moquer de lui, dire voilà d'où il vient, et maintenant, Dieu sait qu'il est différent. Alors, dans la préface de 96, au livre de Dr. Toulouse, dont je vous parlais il y a un instant, Zola va dire exactement ceci. Ceux qui s'imaginent que mon passé me gêne se feront bien, car ce qui est alors, que je veux toujours. Et c'est à peine si les moyens ont changé. Il y avait un personnage de la confession de Claude qui s'appelle Jacques. C'est le personnage de l'étudiant tranquille, installé, pas de problème. Et qui se moque de Claude à cause de tous ses drames, toutes ses angoisses. Et Jacques disait à Claude, voici mon pauvre Claude, tu aimes ce qui n'existe pas. Il vient de là garder ça longtemps dans son esprit. Et il va y répondre lui-même, il répond comme il pourra, 23 ans plus tard, dans le rêve. C'est un livre qu'on a beaucoup blâmé en disant qu'il l'a laissé bleu et rose afin de présenter mieux à l'Académie française au Sébastien. Vous connaissez maintenant le secret du rêve. C'est comme un adieu poignant, ce qu'il appelait autrefois les espérances du rêve. Et quand il me dit que ce sont simplement, en effet, des rêves. Et bien, au centre du rêve, il y a la petite histoire qui va. Le personnage principal s'appelle Félicien, aime cette jeune fille qui s'est attendue. Elle l'aime. Et Félicien, une nuit, elle l'a retrouvée dans sa chambre. Je veux l'enlever. Elle l'aime, vous savez. Elle l'aime de tout son cœur et de tout son corps. Elle est prête à suivre cela. Pourtant, c'est une transgression qu'il faut pas qu'elle le fasse. Alors, Félicien lui dit, penchant sur elle. Ah, j'ai dit, oui. Faire soi, mais lui. Et vous ne sacrifiez pas autour des rêves. La fille lui dit simplement, des rêves. Vous croyez. Mais elle rêve. Et elle avait ajouté une sage voix qui était devenue, à d'un vieux qui était là. C'est quelqu'un dont la voix est venue de lui. Quelqu'un qui essaie de faire de son mieux ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire d'être un brave homme, de bien travailler. À la fin de sa vie, on a un homme devant nous qui boucle sa boucle. Voyez-vous, quand ils sont dressés tout debout en 98, l'affaire Dreyfus m'a rendu meilleur, dira-t-il. En effet, il se met à entreprendre cette année-là, 98, ce dernier travail, cet énorme bouquin, de ces quatre gros livres, la tétralogie des quatre évangiles et la mort l'empêchera d'écrire le quatrième. Il boucle sa boucle, parce qu'autrefois, quand il hésitait sur ce qu'il devait écrire, il disait qu'il y avait d'un côté la satire et de l'autre le cantique. Il aura fait toute sa vie de la satire, c'est-à-dire montrant bien la moitié le mal. Et maintenant, il va essayer de faire du cantique. Et il le dit dans ses notes de travail des quatre évangiles. Et il le dit, ce que je veux écrire, c'est un cantique de tendresse et de charité. Ce sont presque les mêmes mots qu'il employait pour ses compagnons d'autrefois. Les quatre évangiles, dans son œuvre, c'est comme l'invasion des tortues. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a trois livres de lui qui se termine par le masque de quelqu'un qui est sur une rosée qui marche. C'est Madame Amélin qui marche à la fin de l'Arden. C'est Étienne Lantier qui marche à la fin de Germinal. C'est Jean Massard qui marche à la fin de la Louvain. Et ce que je là essaye de leur chanter, c'est comme un chant du départ qui leur fredonne dans la nuit. Ils avancent, on ne sait vers où ils avancent, le cœur conscient, le soleil n'est pas encore là, mais on sait bien qu'ils célèbrent.